Et il est tout pile 19h sur France Inter. L'heure du journal avec Xavier Demagny. Bonsoir Xavier.
Bonsoir. Le gouvernement menace les entreprises de lourdes amendes. Encore faut-il pouvoir les appliquer. Comment faire respecter les 3 jours de télétravail obligatoire? Les inspecteurs du travail s'interrogent ce soir sur le cadre juridique notamment. Pas si évident que ça à mettre en place, on le verra. À la veille du dernier jour de l'année et à 2 jours de la mise en place de nouvelles restrictions, certains passent entre les mailles du filet. Il n'y aura pas de jauge pour les foires, les salons, les zoos et les parcs d'attractions. Soulagement. Le Covid et le blues des traiteurs, difficile de se maintenir à flot quand tout s'annule, comme une impression de déjà-vu. Un nouveau vaccin, le Turcovac, made in Turkey, comme son nom l'indique. Le Covid et aussi protéger les enfants face au virus. Ce sera le menu du Téléphone Sonne dans 20 minutes, Corinne.
Oui, la vaccination est ouverte pour les 5-11 ans depuis 10 jours. L'école reprend lundi. Alors, faut-il vacciner les enfants? Certains scientifiques plaidaient pour garder les écoles fermées en plein pic épidémique. Et vous, vous en pensez quoi? On attend vos appels et vos questions au 01 45 24 7000.
Au sommaire aussi ce soir, des Britanniques bloqués en France à cause des restrictions de déplacement avec le Royaume-Uni. Confusion, Paris rétropédale et assouplit les règles pour les fêtes de fin d'année. Une nouvelle fusée iranienne dans l'espace, en pleine reprise des négociations sur le nucléaire. Et puis le dernier Welbeck Anéantir, sorti le 7 janvier en France, mais aussi en Italie. Avec l'accent, ça donne Annientere. Pas facile.
France Inter.
Jusqu'à 1000 euros par salarié, le gouvernement veut donc mettre la pression sur les entreprises qui ne jouent pas le jeu du télétravail. Lundi soir, Jean Castex a imposé 3 à 4 jours à distance par semaine partout où c'est envisageable. La menace, ce sont donc de lourdes amendes. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir.
On s'est un peu demandé toute la journée comment ça allait se passer. Eh bien, je vous pose la question à vous Claire, comment vont se mettre en place ces contrôles?
Eh bien, il devrait y avoir à la fois des contrôles aléatoires et puis sur alerte de salariés ou de représentants du personnel, là où le sujet du télétravail est l'objet de crispations en interne. Il faudra alors que l'employeur se justifie, explique Alexandra Abadi, secrétaire nationale CGT, chez les inspecteurs du travail.
On demande, est-ce qu'il y a des salariés qui ont été mis en télétravail, sur quels critères, quelles sont les tâches, sur quoi s'est basé l'employeur pour considérer que 100% de ses salariés ne pouvaient pas télétravailler ou simplement 5% de ses salariés. Il faut que quand même que l'employeur il puisse justifier du caractère non télétravaillable si effectivement il n'a rien mis en œuvre du tout.
Des observations qui donneront lieu à un rapport et éventuellement à une amende administrative donc prononcée par la direction régionale du travail, 50 000 euros maximum par société. Tout cela prend tout de même plusieurs mois, ce que confirme ce soir le ministère du Travail.
Effectivement, dans la pratique, Claire, c'est toujours plus compliqué à appliquer.
Oui, d'autant que la définition du télétravail dans le protocole sanitaire n'a pas bougé. Elle revient toujours à l'employeur. C'est lui qui tranche quel poste est télétravaillable, quel poste ne l'est pas. Et puis, il y a un problème juridique. Le Conseil d'État l'a dit et redit, le protocole sanitaire n'a pas valeur de loi, contrairement au Code du Travail. Et selon les inspecteurs, mais aussi les juristes, l'infraction à l'obligation de télétravail seule ne peut donc justifier une sanction. En réalité, il faudra prouver plus globalement qu'une entreprise ne protège pas suffisamment ses salariés et qu'ils sont en danger. Bref.
C'est quand même assez compliqué à mettre en œuvre et on ne va pas avoir des amendes administratives qui vont déferler dans les jours qui vont venir, c'est sûr.
Une solution plus efficace, selon le syndicat, aurait été de pouvoir décider d'arrêt temporaire d'activité pour les entreprises récalcitrantes. Du côté du gouvernement, on fait une autre lecture de cet avis du Conseil d'État et on assure que ces amendes permettront bien de sanctionner une minorité d'employeurs qui ne jouent toujours pas le jeu.
Claire Chaudière, service économie de France Inter, sa disposition sur les amendes aux entreprises récalcitrantes, ajoutée donc au projet de loi sur le pass vaccinal, discuté lundi par les députés. Projet de loi sanitaire à l'Assemblée lundi, au Sénat d'ici une semaine, entrée en vigueur prévue le 15 janvier. D'ici là, un réveillon à passer, celui du 31 demain soir avant la nouvelle année. Ça se fera avec un peu plus de souplesse que l'an dernier, pas de couvre-feu, mais des restrictions dans de nombreux départements. Interdiction de danser et de consommer debout dans les bars et les lieux publics. Pas de rassemblement et de consommation d'alcool à l'extérieur. Fermeture des bars aussi à 2h du matin maximum, notamment à Paris, Paris et l'Île-de-France, où les transports vont quand même fonctionner en grande partie toute la nuit. La fin d'année, qui est d'ordinaire l'une des périodes essentielles pour le chiffre d'affaires dans certains secteurs. Les bars, on en parlait, les boîtes de nuit, les restaurants, les commerces de bouche. C'est très très compliqué aussi pour les traiteurs en ce moment. Annulation de grandes tablées demain soir et parfois à la dernière minute. Annulation aussi des cérémonie de vœux à la rentrée. Conséquence, c'est parfois le chômage partiel. Ce sera le cas pour les salariés de Margot Vanekem. Elle dirige une entreprise de traiteurs événementiels près de Nancy.
On a des achats de matières premières, du personnel en extra qui est réservé, de la vaisselle qui est précommandée. Tout le travail qu'on a fait pendant des mois n'a servi strictement à rien parce que tout a été annulé et en dernière minute. Les achats de matières premières, bah effectivement, les fournisseurs ne nous reprennent pas nos matières premières. Quand on a un événement de 500 personnes, on n'attend pas la veille pour commander la matière première, hein, bien évidemment. Donc, c'est des choses qu'on a achetées, des choses qui ont été jetées, il y a des choses qui sont retravaillées, mais dans la mesure où on n'a pas d'événement, c'est très compliqué d'utiliser la matière première. Le télétravail, alors nous, c'est également, on a un service de plateau repas, donc on livre en entreprise pour des réunions ou autres. On pensait peut-être éventuellement sur janvier, on pouvait travailler un petit peu sur ce modèle de prestation, mais avec l'annonce effectivement du télétravail 3 à 4 jours par semaine obligatoire, nous imaginons bien que les gens vont pas commander des plateaux repas pour la maison. Le service plateau repas va également être fermé pour ce début d'année.
Une situation très compliquée donc pour les traiteurs événementiels, et cet exemple près de Nancy avec Thierry Colin de France Bleu Lorraine.
Et au milieu de tout ça, Xavier, certains ont un peu plus de chance.
Si lundi, c'est le grand retour des jauges pour les événements publics, 5000 personnes maximum en extérieur, 2000 en intérieur, c'est aussi le grand soulagement du côté des foires et salons, mais aussi des zoos et parcs d'attractions. Ils y échappent à ces jauges. Ce sont des endroits où l'on circule, donc c'est bon, dit le gouvernement. Soulagement donc pour Fabrice Laborde, vice-président de l'UNIVEM, Union Française des Métiers de l'Événement.
Ça a été effectivement un ouf de soulagement. Au début, on a été abasourdi, on a été surpris. Il faut savoir que c'est plus de 130 événements qui ont disparu en même pas 24 heures. Sur le mois de janvier, début du mois de février, c'est plus d'un milliard de chiffre d'affaires qui a disparu. Le mois de janvier, c'est 10% de l'activité de l'année, avec des grands salons comme Maisons et Objets ou comme le festival de la BD d'Angoulême. Aujourd'hui, avec l'annonce de Jean-Baptiste Lemoyne, effectivement, nous sommes totalement rassurés. Il va falloir maintenant convaincre et diffuser la bonne parole pour que les salons reprennent en février et sur les mois suivants. Parce que l'important aujourd'hui, c'est pas de mettre nos gens au chômage. L'important, c'est qu'ils continuent à travailler. Sinon, on va encore perdre 20% de nos effectifs, comme ça a été le cas. Et on retrouvera pas nos collaborateurs au retour. Il va falloir que le gouvernement nous aide à passer ce mois et demi. Si effectivement nous n'avons pas ça, ça va être très compliqué.
Fabrice Laborde de l'Union Française des Métiers de l'Événement, l'UNIMEV, interrogé par Lucie Amadieu. En bref, conséquence du Covid, le pape annule sa visite du Nouvel An à la crèche de la place Saint-Pierre à cause des risques de contamination, à cause du risque accru. Aussi, les huis clos des bateaux, les États-Unis recommandent d'éviter les croisières pour le moment, y compris pour ceux qui sont vaccinés. Et puis, en football, en France, les Girondins de Bordeaux annoncent que 21 joueurs de l'effectif sont, je cite, indisponibles pour des raisons liées au coronavirus. Ils ne pourront pas jouer le 16e de finale de Coupe de France prévu dimanche à Brest. Par ailleurs, le masque fait son grand retour en extérieur. Il redevient obligatoire dans au moins 45 départements. Renseignez-vous par chez vous pour savoir si c'est le cas. Masque chirurgical ou masque FFP2. Tiens, ce modèle forme bec de canard, plus filtrant et plus protecteur, est notamment préconisé en Italie. Sauf qu'il est bien plus difficile à trouver chez nous. En France, c'est ce qu'a pu constater Céline Autain à Laval. Reportage France Bleu Mayenne.
Avant de partir à Paris, Zéphora aimerait bien remplacer ses masques chirurgicaux par des FFP2.
C'est pas que j'ai perdu confiance dans les masques chirurgicaux, c'est que ça fait longtemps qu'on dit que ceux-là sont plus efficaces. Donc j'essaye de le faire quand je peux ou quand je vais dans des lieux potentiellement à risque. Bon, là, je vais prendre un train cet après-midi, c'est pour ça.
Et dans sa recherche à Laval, elle en est à sa 3e pharmacie.
Bonjour, excusez-moi, je cherche des masques FFP2. Est-ce que vous en auriez ?
Alors j'en ai plus, je suis désolée, j'en ai plus aujourd'hui.
J'en avais les deux derniers, je les ai vendus ce matin. Ah. Mais c'est vrai qu'on a été dévalisés.
En charge du matériel médical, c'est bien la première fois que Zoé Laputo voit une telle ruée sur les FFP2.
J'avais du stock encore et ça partait pas. Et bizarrement, depuis le 24, tout est parti.
Elle vient de lancer une nouvelle commande d'une trentaine de boîtes en espérant être livrée aujourd'hui. Mais d'ici là...
Pas de panique si on ne trouve pas. On peut très bien être protégé tout en gardant la distance, les gestes barrières, se laver les mains et garder le masque si possible.
Et si vous voulez à tout prix porter des FFP2, prévoyez d'y mettre plus d'argent. Ces masques sont en moyenne 2 fois plus chers que les chirurgicaux.
Notez d'ailleurs qu'en France, aucune consigne officielle n'a été donnée pour préférer le FFP2. Le Conseil scientifique scientifique rappelle d'ailleurs régulièrement qu'il vaut mieux un masque chirurgical bien porté qu'un FFP2 mal positionné sur le visage.
Et la lutte contre le Covid passe encore et toujours par la vaccination.
Face à cette cinquième vague et aux deux variants qui circulent actuellement, si les vaccins sont un peu affaiblis par l'Omicron, la troisième dose de rappel, le fameux booster, semble être plutôt efficace. C'est ce qu'affirme Sylvie Briand, directrice du département de la gestion des risques épidémiques de l'Organisation mondiale de la santé.
La première dose, vous avez un petit bouclier, la deuxième dose, un plus gros bouclier, et puis la troisième dose, éventuellement une armure. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Les gens qui ont des systèmes immunitaires très faibles et fragiles, évidemment, doivent se vacciner plus que les autres.
Quatrième dose ou pas, que dit l'OMS là-dessus aujourd'hui ?
Pour l'instant, on a surtout des études sur trois doses. On voit effectivement que quand sur certains vaccins, on voit qu'il y a une décroissance de l'efficacité au bout de deux doses, en rajoutant une dose, effectivement, on voit que ça remonte. Maintenant, avec trois doses, on a quand même une très bonne efficacité. Bon, c'est moindre que ce qu'on avait avant, mais c'est quand même tout à fait satisfaisant et tout à fait à même de protéger les gens contre les formes graves de la maladie.
Sylvie Briand, responsable à l'OMS de la gestion des risques épidémiques, interrogée par Frédéric Carbone sur France Info. Ce soir, plus de 64 000 enfants de 5 à 11 ans ont reçu en France une première injection et encore plus de 206 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures. Contamination à peu près au même niveau que ces derniers jours. La Turquie, elle, vaccine désormais avec un vaccin fait maison. Et son nom est plus que transparent. Le Turcovac vient d'être approuvé par les autorités sanitaires. Jusqu'à présent, c'était l'un des sérums chinois qui était administré dans le pays, le Coronavac. Et cette nouvelle campagne débute en pleine remontée des contaminations dans le pays. France Inter à Istanbul, Cerise Sudri-Ledu.
Il pose fièrement devant les caméras, remontant la manche de son polo, l'air déterminé. Le ministre de la Santé turque a effectué sa dose de rappel ce mercredi, et pas avec n'importe quel vaccin, celui-là est national, le Turcovac. Le vaccin est distribué dans les hôpitaux publics turcs depuis ce jeudi. Le président Recep Tayyip Erdogan a d'ailleurs déclaré que beaucoup de ses concitoyens attendaient un vaccin national pour se faire vacciner. Et l'agence pro-gouvernementale Anadolu Agency a même écrit que de nouvelles salles pourraient être ouvertes face à l'afflux de patients. Alors même si la Turquie a promis de partager son vaccin avec le monde entier, aucun taux d'efficacité n'a pour le moment été rendu public. Idem, alors que le Turcovac est désormais conseillé en dose de rappel, on ne sait pas s'il est efficace contre Omicron. L'association médicale turque a appelé à partager les données scientifiques des recherches et à publier les résultats dans une revue internationale. Istanbul, Cerise Sudri-Ledu, France Inter.
Direction Londres à présent pour retrouver Richard Place, notre correspondant sur place. Bonsoir Richard.
Bonsoir.
Vous allez nous aider à comprendre un sacré pataquès, beau mélange de Covid, Brexit et bureaucratie. La France assouplit ce soir les restrictions de voyage pour les citoyens britanniques à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est un rétropédalage, Richard, pour corriger une situation complètement ubuesque.
Oui, complètement. Ça part de Roland Moore, en fait, qui rentre au Royaume-Uni au volant de sa voiture pour quelques jours de vacances. Ce Britannique vit et travaille à Bruxelles. Il passe évidemment par la France, où les contrôles pour accéder à l'Eurotunnel sont une formalité. À l'heure du retour, il conduit jusqu'à Folkestone pour embarquer son automobile vers les routes françaises et rouler ensuite vers chez lui, en Belgique.
Quand je suis arrivé aux polices aux frontières français, j'ai passé à l'officier mon passeport et ma carte de séjour belge. Il a immédiatement dit que vous n'allez pas rentrer chez vous aujourd'hui, monsieur. Très étrange de se voir refuser la possibilité de retourner chez vous de la même manière que vous êtes venu. Je comprends et je respecte la gravité de la situation de Covid en France et en Europe, mais la bureaucratie arbitraire ne va pas tuer le virus.
L'explication vient d'un texte officiel qui date d'avant-hier. On peut le lire en rouge sur le site d'Eurotunnel. À moins d'avoir leur résidence principale en France, les citoyens britanniques sont désormais considérés comme ressortissants de pays tiers et ne peuvent plus transiter par la France, par la route, pour rejoindre leur pays de résidence dans l'Union européenne. Ce sont ces quelques lignes sur lesquelles la France a décidé de faire preuve de clémence il y a quelques heures. Roland Moore, lui, a pris le train hier pour rentrer à Bruxelles. Il a laissé sa voiture en Angleterre. Il a donc désormais le droit de venir la chercher.
Voilà, c'est donc un peu plus simple ce soir pour les Britanniques qui veulent rentrer chez eux. Merci Richard Place, correspondant d'Inter au Royaume-Uni. Au Soudan, 4 manifestants tués cet après-midi dans la banlieue nord-ouest de Khartoum, la capitale. Des milliers de personnes défilaient contre le putsch du mois d'octobre. Les communications internet et téléphone sont actuellement coupées dans le pays.
19h14 sur France Inter, Xavier. Nouvelle démonstration de force de l'Iran en pleine reprise des négociations sur le nucléaire.
La République islamique affirme avoir lancé dans l'espace une fusée. Elle aurait mis sur orbite 3 appareils de recherche d'après la télévision d'État. Nouvelle démonstration de force, nouvelle provocation, surtout Christian Chesneau.
Téhéran n'a pas précisé s'il s'agissait de satellites civils ou militaires, mais en pleine négociation sur le nucléaire à Vienne, cette annonce de mise en orbite réussie de 3 appareils de recherche sonne comme un camouflet pour les Occidentaux qui redoutent que les Iraniens utilisent cette technologie spatiale pour développer des vecteurs balistiques longue portée. En février dernier, l'Iran avait testé un nouveau lanceur équipé de son plus puissant moteur à combustible solide, une prouesse technique compte tenu des sanctions économiques qui asphyxient le pays et surtout qui limitent considérablement son accès aux ressources extérieures. Mais la République islamique, et c'est sa force, dispose de bataillons d'excellents ingénieurs bien formés et créatifs. L'Iran peut également compter sur des alliés fidèles comme la Corée du Nord qui l'a aidé à la mise au point de son premier lanceur spatial. L'année dernière, les gardiens de la révolution ont réussi à mettre sur orbite pour la première fois un satellite militaire baptisé Nour. En accélérant son programme spatial, l'Iran entend montrer que personne ne pourra brider ses ambitions technologiques.
Le constructeur automobile américain Tesla rappelle près d'un demi-million de voitures, les modèles 3 et les modèles S. À cause de plusieurs problèmes sur le coffre des véhicules, ils peuvent par exemple s'ouvrir sans qu'on le demande. Retour en France, nouveau féminicide hier à Besançon. Un sexagénaire a tué sa femme de 56 ans. Il l'a égorgée à leur domicile avant de retourner le couteau contre lui. Lui est actuellement hospitalisé dans un état grave. Les dernières explications avec William Guécosta de France Bleu.
C'est après avoir entendu une violente altercation en fin de soirée qu'une voisine du couple a décidé d'appeler la police. Arrivée sur place, les forces de l'ordre font face à une scène glaçante. Sur le balcon, les policiers aperçoivent la victime grièvement blessée à l'arme blanche qui appelle au secours. Après être entrée dans l'appartement, ils la trouvent mourante. Elle finit par succomber à ses blessures, 9 plaies par arme blanche, dont une très profonde à la gorge. Son agresseur présumé est son propre mari. Lorsque la police arrive sur les lieux, il retourne alors son arme contre lui et se blesse très grièvement au niveau du cou ainsi qu'au thorax. Il est transporté au CHU de Besançon. Depuis, son pronostic vital est toujours engagé. Reste désormais à la police à déterminer les raisons qui ont mené à ce drame dans ce couple qui ne présentait pas d'antécédents, d'après le parquet.
Deux violents affrontements à Calais ce matin entre des migrants et des forces de l'ordre alors que ces dernières tentaient de démanteler un campement. Jet de projectiles et gaz lacrymogène en réaction. Bilan, une quinzaine de policiers et gendarmes blessés, dit la préfecture du Pas-de-Calais. Les associations parlent de 3 exilés blessés également. Les dangers de la montagne avec la pluie de ces derniers jours et les températures plus douces. Avalanche cet après-midi dans un secteur hors piste à Bonneval-sur-Arc, c'est en Savoie. Aucune victime à déplorer, mais le risque est actuellement élevé jusqu'au niveau 3 par endroit dans les massifs de Savoie, Haute-Savoie et en Isère.
Et puis le dernier Michel Houellebecq est attendu dans les librairies en France, mais également en Italie.
Anéantir, c'est son titre. Version traduite, ça donne. Je vais essayer de le faire sans déraper.
On la retente.
Annientare. Voilà,
pas
nos
mal.
Voisins transalpins.
Annientare.
Nos voisins transalpins qui apprécient particulièrement Michel Houellebecq. Et la sortie du roman est donc aussi prévue la semaine prochaine dans les librairies italiennes. Antonino Gallofaro.
Le livre de Michel Houellebecq sort le 7 janvier, publié par la maison d'édition La Nave di Teseo.
Il n'a pas besoin de regarder dans le système. Davide Secanéantir est attendu aussi en Italie. Les clients de sa librairie, Audradec, le lui ont déjà demandé.
Oui, les lecteurs italiens le lisent, Houellebecq, bien sûr. C'est un auteur visionnaire, un grand artiste.
Dans cette autre librairie du centre, Altro Quando, on trouve Sérotonine et Plateforme dans leur édition italienne. Anéantir les rejoindra bientôt, comme s'en réjouit Flavio.
C'est un auteur qui nous plaît et qui nous fait vendre grâce à sa capacité à stimuler une réflexion chez le lecteur. Ensuite, que tu sois d'accord ou non, c'est encore l'un de ceux qui ne te raconte pas une histoire pour te réconforter, mais pour t'obliger à penser.
Le libraire a commandé une 20aine de copies d'Anéantir, il y a de ça des mois.
Mon Dieu, si on ne vend pas 20 Houellebecq, on a vraiment de quoi s'inquiéter.
Rome, Antonino Gallo, France Inter.
Anéantir, voilà, le dernier Houellebecq.
Ouais, on va le dire en français.
Anéantare en italien, on a compris. Nihiliste, romantique, prophétique.
En allemand, non, on ne savait pas.
nihiliste, romantique, prophétique, mais aussi un peu trop long. Ça, c'est le résumé d'Ilana Mar-Youssef du service culture d'Inter, et c'est à lire sur notre site internet. 730 pages quand même, hein, le dernier Houellebecq.
Oui, mais vu qu'on va pas faire la fête, on aura le temps de lire 730 pages. Hein. Voilà, c'était le journal de Xavier Demani. Merci beaucoup, Xavier. On reste ensemble jusqu'à 20h. Ce soir, au téléphone sonne, on parle du Covid et des enfants. Que risque-t-il vraiment avec le variant Omicron? Est-ce qu'il faut les vacciner ou les confiner? On va tenter de répondre à vos questions. Appelez-nous au 01 45 24 7000 et en attendant, un œil sur le temps.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Et on retrouve Sébastien Léas, journée ensoleillée, sauf sur le nord-ouest et les plages de Méditerranée. Tiens donc.
Oui, le soleil s'imposera sur toutes les régions de la moitié du sud de la Loire et également sur la moitié est. Mais il faudra parfois être patient et attendre que les nuages bas et brouillards présents au petit matin se dissipent. Localement, des grisailles pourraient d'ailleurs persister dans le Val de Saône ainsi que dans la vallée de la Garonne. En revanche, le ciel sera plus nuageux sur les côtes méditerranéennes à cause d'entrées maritimes. Ces nuages bas recouvriront essentiellement la zone littorale alors que l'intérieur sera bien ensoleillé. Le quart nord-ouest sera lui concerné par une perturbation faiblement active, apportant surtout des nuages. Prévoyez quand même quelques gouttes près de la Manche. Les nuages s'étendront sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie dès le matin. Et puis ces nuages seront moins compacts l'après-midi, mais ils progresseront plus à l'est, touchant le centre-val de Loire, l'Île-de-France, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, alors que la matinée se passera sous le soleil.
Et les températures entament une petite baisse.
Oui, la baisse sera déjà sensible cette nuit, avec des minimales qui repasseront quasiment partout sous la barre des 10 degrés. Pour les maximales, ce sont essentiellement les régions de la moitié est qui seront concernées par cette baisse, notamment les plages de la Méditerranée qui seront, elles, touchées par les entrées maritimes. À Cassis, par exemple, il fera 17 degrés demain après-midi, alors que le record de douceur a été battu cet après-midi avec près de 22 degrés. L'ambiance sera quand même douce pour préparer le réveillon. 13 degrés à Lyon, Strasbourg et Charleville-Mézières. 14 degrés à Saint-Dizier, Arras, Rouen et Havane. 15 degrés pour Paris et Cholet. 18 degrés à Toulouse et Ajaccio. 20 degrés à Mont-de-Marsan, Castres et Draguignan.
Merci Sébastien Léas de Météo France.